Vous êtes sur RTL.
Le Grand Jury, présenté par Olivier Bost.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce Grand Jury en direct sur RTL et sur Paris Première. Bonjour Christophe Béchu.
Bonjour Olivier.
Vous êtes le ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires. L'écologie risque gros, c'est ce que vous avez dit cette semaine, Christophe Béchu. Est-ce que l'écologie, ça commence à bien faire? Comme avait dit Nicolas Sarkozy, c'est la grande question après le mouvement des agriculteurs. Pause sur la réduction des pesticides, maintien de l'avantage fiscal sur le gasoil. Où sont les ambitions d'Emmanuel Macron qui avait dit « Mon quinquennat sera écologique ou ne sera pas ». Bienvenue Christophe Béchu. À mes côtés dans ce grand jury pour vous interroger, Pauline Buisson de la rédaction d'M6.
Bonjour.
Et Claire Conruit du Figaro.
Bonjour.
Lors de vos vœux aux acteurs de la transition écologique cette semaine, je le disais, vous avez dit « Nous traversons une période politique où l'écologie risque gros ». Une question de Pauline Buisson.
Oui, Christophe Béchu. La politique que je mènerai dans les 5 ans à venir sera écologique ou ne sera pas, évidemment. Vous savez qui a dit cela, c'est Emmanuel Macron lors de sa campagne pour sa réélection en 2022. Pouvez-vous aujourd'hui affirmer que la politique menée est écologique?
Non seulement je le peux, mais je ne vois pas qui, à part pour des raisons politiciennes, pourrait le contester. Jamais, je dis bien jamais, on a autant fait pour l'écologie. Certains peuvent considérer qu'on ne fait pas assez. D'autres, et ils sont de plus en plus nombreux, considèrent qu'on en fait trop. Je pense qu'on va avoir l'occasion d'y revenir. Mais personne ne peut contester qu'on n'en a jamais fait autant. Planification écologique. On est le premier pays au monde à mettre en place une planification. Des lois pour l'orientation des mobilités. Un soutien avec le leasing et la voiture électrique. MaPrimeRénov' qui fait qu'on fait 10 fois plus de rénovations qu'en 2017. Des mesures autour de l'économie circulaire, des bonus pour soutenir la réparation, des dispositifs de soutien autour de la biodiversité, avec une stratégie nationale de la biodiversité, un plan d'adaptation au changement climatique, se préparer à une France à 4 degrés. Tout ça, ça n'a pas d'équivalent dans le passé. Et, pardon de vous le dire, mais c'est vrai aussi sur le plan des résultats. Quand une partie des écologistes... Peut-être parce qu'ils ont le sentiment que c'est leur fonds de commerce électoral qui est menacé, sont dans une critique d'une telle outrance, en disant « Regardez, il se passe rien, c'est pas écologiste ». Je veux juste dire que sur le plan de la baisse des émissions, mais on pourrait prendre d'autres critères, nous faisons 4 fois plus l'année dernière que ce qui se passait avant 2017.
Donc c'est-à-dire un quinquennat quand ils écologique, étaient en responsabilité. Vous le maintenez ?
Mais bien entendu. Non seulement je le maintiens, mais j'observe objectivement que c'est une réalité qui n'est pas contestable. Je le redis, il y a des critiques.
Avec
il y a des critiques pour dire « vous n'en faites pas assez ». Il y a des critiques pour dire « vous en faites trop » ou « là-dessus, vous n'êtes pas bon ». Mais personne ne peut contester ni l'ambition écologique du président de la République, ni la réalité des mises en œuvre, des actions concrètes, des budgets, des accompagnements qui sont mis en place.
Il y a eu un fait cette semaine, Christophe Béchu, la mise en pause du plan Ecophyto pour réduire les pesticides dans l'agriculture. Ça, est-ce que c'est un retour en arrière pour l'écologie?
Vous voyez, Olivier, je trouve que c'est très intéressant. Vous dites vous-même, on met sur pause. Est-ce qu'une pause est un retour en arrière? Non, une pause est une pause.
Il y aura un plan Ecophyto?
Il y a un plan éco-phyto et il n'a pas été dit qu'on arrêtait le plan phyto, il a été dit qu'on le mettait sur pause jusqu'au salon de l'agriculture.
Alors,
on va être très clair, si vous voulez bien. Parce que ce sujet, je vois bien qu'il anime, pas seulement d'ailleurs la classe politique, une partie aussi de nos concitoyens, parce que derrière ce mot de produits phyto, de pesticides, il y a des inquiétudes. Et des inquiétudes légitimes, que je comprends, parce qu'on sait que la perte de la biodiversité agricole, en particulier pour les oiseaux, les conséquences que ça peut avoir sur l'eau potable à proximité des endroits où justement on assure ces captages, ce sont des vrais sujets, des sujets de santé publique et des sujets sur lesquels, que ce soit pour la biodiversité ou pour la santé des Français et des agriculteurs en premier lieu, il est hors de question qu'il y ait un recul qui menace ou cette santé ou cette biodiversité.
Alors expliquez-nous pourquoi une pause et à quoi peut servir cette pause si c'est pas un recul.
Ce que nous disent les agriculteurs dans ce domaine, peut-être avec encore un peu plus de force que dans d'autres. C'est, il y a des règles qui s'appliquent en France. On est dans un contexte de concurrence européenne et mondiale. Et les règles qui s'appliquent chez nous,
elle ne s'applique pas parfois à nos voisins, allemands, italiens, belges, et elle s'applique encore moins à des gens qui nous font déjà du dumping social, mais qui en plus ajoutent maintenant du dumping environnemental.
Donc vous voulez retirer les règles françaises ?
Ce que nous disons, un, c'est que sur ce sujet, il faut qu'on s'efforce d'agir davantage en européen. On n'a pas d'indicateurs communs entre pays européens sur les degrés, les quantités de pesticides. Nous n'avons pas aujourd'hui, de façon systématique, des clauses miroirs qui nous conduisent à interdire produits phytopharmaceutiques utilisés à l'extérieur de l'Europe et qui conduisent pourtant à des importations avec des résidus de ces produits chez nous.
Ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'en France, on est plus sévère qu'au niveau européen et qu'au niveau mondial. Donc, la conclusion que vous en tirez, c'est qu'au niveau français, il faut revoir les règles. Il n'y a pas de raison de s'affliger des règles que les autres ne s'appliquent pas. C'est bien ça.
Il y a ça, mais pas seulement. Il y a à la fois un enjeu de non-surtransposition, de concurrence, etc. Mais en parallèle, il y a un enjeu de santé sur lequel on ne revient pas. La stratégie éco-phyto, c'est quoi ? C'est de dire qu'il faut baisser l'usage des pesticides. Et il faut les baisser avec un objectif chiffré de moins 50%, mais avec un principe, pas d'interdiction sans solution. Et donc, avant d'interdire, il faut qu'on mette de l'argent et il faut qu'on mette des stratégies de recherche pour aller trouver des solutions. Alors, on a beaucoup dit...
Qu'est-ce qui va se passer pendant la pause ? Excusez-moi, mais je n'ai pas bien compris ce qui était en discussion ou négociation et avec qui.
D'abord, j'aimerais revenir sur une chose. Parce qu'on entend aujourd'hui des gens défendre un plan éco-phyto et lui trouver des vertus qu'il ne trouvait pas quand il a été annoncé il y a quelques semaines. Vous avez finalement une sorte d'unanimité tout à coup autour du plan éco-phyto, qui est une façon d'aller saluer le travail que le gouvernement a fait il y a quelques semaines, mais qui n'avait pas donné lieu
à la même unanimité. 50% de pesticides en moins d'ici 2030.
Exactement. Et puis il y a une petite musique qui consiste à dire de toute façon, la France n'a rien fait. Je voudrais juste, et pour vous, et surtout pour ceux qui nous écoutent, prendre 15 secondes sur le sujet. Tous les produits, tous les pesticides ne se valent pas. Vous en avez qui ont des risques avérés pour la santé, qui sont classés CMR1 sans être trop techniques, et vous en avez d'autres qui ont des risques probables et pour lesquels il y a la volonté d'aller se battre pour faire en sorte de les baisser sans les CMR2. Au cours de ces 5 dernières années, les fameux CMR1, ils ont quasiment disparu.
En France.
Moins 96% quand je prends les chiffres de l'année 2022 par rapport à 2015 sur l'utilisation de ces pesticides qui sont les plus nocifs et les plus dangereux. Sauf que nos indicateurs ne nous conduisent pas à nous en rendre compte parce qu'on continue de regarder non pas les pesticides en fonction de leurs risques, mais les pesticides de manière générale. Et donc, pour les agriculteurs, dans ce qu'ils nous ont exprimé, ils nous ont dit une partie des efforts qu'on a faits ne sont même pas valorisés parce que vous continuez à parler de la totalité des pesticides sans regarder les efforts qu'on a fait pour diminuer les risques.
Si je comprends bien, dans votre pause, vous voulez revoir le mode de calcul. Mais est-ce que la conséquence de cette révision des modes de calcul, ça sera qu'il y aura plus de pesticides ou pas ?
Non. Et je vous donne rendez-vous dans quelques semaines. On a un travail de pédagogie collectif à faire sur comment les 250 millions d'euros de budget faits pour permettre une recherche et pour permettre des alternatives aux pesticides, nous les engageons. Est-ce qu'on est d'accord sur les modalités, sur les pas de temps, sur les sujets sur lesquels on commence ? Deux, on a un sujet sur des indicateurs européens. Trois, on a un sujet sur la réciprocité qui vient de commencer. Le Premier ministre a annoncé dès la semaine dernière qu'il interdisait de manière immédiate le thiaclopride, qui est utilisé pour des produits de soja, de pommes de terre, et qui conduit, alors que c'est interdit en France, à ce que nous ayons des importations, à ce que nous ayons jusqu'à maintenant des importations. On va donc mettre fin à cette hypocrisie. On va aligner les budgets. On aura un indicateur européen qui nous permettra de discuter de ces enjeux avec nos voisins. Et on reprendra notre marche.
En trois semaines, vous mettez en place un indicateur européen. Vous arrivez à aligner l'Europe sur ce...
Vous allez finalement distinguer les bons pesticides des plus mauvais, c'est ça ?
D'abord, des indicateurs, il y en a sur la table. Pour commencer par répondre à votre question. Il y a le HRI, qui est un indicateur européen qui avait été poussé. Là où aujourd'hui, on utilise plutôt le QSA ou le NODU en France. Sans entrer dans le détail,
oui, là, c'est compliqué,
il y a déjà des indicateurs.
Ouais.
Le sujet, c'est de se mettre d'accord sur ces indicateurs. Ensuite, c'est de réaffirmer. Mais c'est le cas... y compris, c'est l'attente des agriculteurs. Moi, quand je lis des choses en disant les agriculteurs ne sont pas conscients d'eux, ils sont en première ligne. Qui les épand, ces produits ? Qui en ressent les premiers effets ?
Donc, avec les maladies que ça peut générer chez certains agriculteurs.
Donc, il faut arrêter, parce que c'est une forme d'agribashing, de présenter l'agriculteur comme quelqu'un dont l'obsession serait de se demander comment il peut utiliser plus de pesticides. En revanche, quand il vous dit « comment je fais par rapport à tel sujet ?» en termes de temps, en termes de coûts ou en termes de concurrence et de compétitivité, si on ne répond pas à ces autres aspects, on n'y arrivera pas. Je ne dis pas qu'on va tout régler en 3 semaines. Je dis que prendre quelques semaines jusqu'au salon de l'agriculture pour se mettre tranquillement autour d'une table sur ces différents sujets, ça ne mérite pas les réactions qui consistent à expliquer que c'est un recul, que c'est la fin du quinquennat, que c'est la preuve qu'on n'est pas écologique.
Sur cette idée de pause présentée par le Premier ministre, vous étiez en accord avec cette décision? Ça vous semble la bonne décision? Ou au contraire, vous vouliez que le plan aille à son terme dès maintenant?
Il était important que nous ayons une sortie de crise globale. Par rapport à un malaise dont personne ne peut contester la réalité. Parce que des gens, comme les agriculteurs, qui quittent leurs champs, qui quittent leurs élevages et qui viennent manifester leur colère, comme ils l'ont fait. Si vous ne l'entendez pas et si vous ne mesurez pas que ce qui se joue, c'est pas seulement un avenir économique, c'est y compris nos trajectoires écologiques en vrai. Les agriculteurs, ils façonnent nos paysages, ils nous nourrissent. Mais ils sont aujourd'hui dans une situation où 40% de ce que nous mangeons, nous l'importons. Est-ce qu'on peut se satisfaire de ça économiquement? Non, mais est-ce qu'on peut se satisfaire de ça écologiquement? Pas plus. Si on est sincèrement attaché à l'écologie, on croit au circuit court, à la nécessité de faire en sorte de pouvoir faire vivre par leurs revenus les agriculteurs de proximité et au fait que quand on a le continent qui a les normes environnementales et écologiques les plus sévères, c'est une raison supplémentaire pour défendre notre souveraineté et pour défendre les produits de proximité.
Est-ce que la France peut interdire des importations, en étant dans l'Europe, hein, peut interdire des importations parce que des agriculteurs, que ça soit ailleurs en Europe ou ailleurs dans le monde, utilisent des produits que nous ne voulons pas utiliser?
À la minute où on se parle, si déjà on interdisait les importations de produits qu'on interdit en Europe, on ferait des pas de géant.
Mais vous parlez des produits à consommer, des produits de pesticides ou des produits qu'on consomme?
Je ne parle pas seulement de pesticides. Je parle de manière générale de faire en sorte que nous ayons des clauses miroirs qui fait que quand une règle s'applique chez nous, elle vaut pour les gens qui veulent nous vendre. On a peu parlé de bien-être animal, mais on a aujourd'hui des normes qui encadrent la taille maximale d'un poulailler, d'une porcherie, pour faire en sorte que ce bien-être animal soit mis en œuvre. Quand on n'a pas les mêmes normes, pas seulement avec la Chine, mais même avec le Danemark ou l'Allemagne, comment est-ce qu'on peut ensuite regarder les agriculteurs en n'entendant pas ni leur souffrance, ni leur incompréhension, ni leur colère?
Est-ce que c'est possible de changer ça? Est-ce que c'est réaliste?
Oui. À l'intérieur de l'Europe, assumer de ne pas surtransposer en ayant des règles nationales qui soient plus dures que les règles européennes, c'est une question de volonté et de décision politique.
Donc ça veut dire que vous allez desserrer l'étau sur les règles françaises?
Ça veut dire que nous allons assumer des simplifications qui nous permettent d'agir en européen.
Et sur les autres pays hors Europe, ça veut dire revoir tous les accords de libre-échange, ce que vous êtes en train de décrire?
Ça veut dire les conditionner à la fois à des perspectives climatiques et à des règles de réciprocité. Et la raison pour laquelle le président de la République a redit son opposition à Mercosur, c'est que c'est sans doute l'exemple même du traité à la fois le plus daté qui est discuté depuis si longtemps qu'au moment où la discussion a commencé, aucun de ses objectifs climatiques ou écologiques n'était mis en œuvre et qu'il aurait même des conséquences néfastes, pas seulement pour notre agriculture, mais pour la planète, parce qu'il contribuerait à accélérer la déforestation en Amazonie ou ailleurs, alors même qu'on voit bien que c'est un enjeu climatique.
C'est une pause sur le Mercosur, ou sur les discussions sur
le Mercosur. Ça doit être plus qu'une pause. C'est un rendez-vous de vérité et de sincérité pour que les Européens montrent que quand ils décident de règles qui s'appliquent chez nous, elles valent pour ceux qui veulent vendre ici. C'est simple.
Vous pensez que l'avis français est majoritaire sur cette question-là?
Et les Allemands notamment, puisque l'accord ne porte pas que sur l'agriculture. Donc les Allemands qui, eux, veulent exporter des voitures, par exemple, eux, sont plutôt favorables au Mercosur.
Ce que je crois, c'est que, et ce n'est pas une formule, c'est que le monde a changé de façon extrêmement profonde avec le Covid et qu'on n'en a pas encore tous tiré toutes les conséquences. Le Covid, il a montré qu'il y avait des limites absolues à la mondialisation. Qu'à un moment, dépendre du bout du monde pour nos médicaments, pour des équipements de protection individuelle, c'était tout sauf une bonne idée. Et ce qui est vrai dans le domaine de la santé, on est aujourd'hui en train de bien le mesurer sur le plan alimentaire et même sur le plan industriel. C'était inimaginable, il y a encore seulement quelques années, qu'on ait des règles à l'échelle de l'Europe, par exemple, qui nous permettent de favoriser notre industrie. Si je prends les voitures électriques, depuis le 1er janvier de cette année, nous aidons les voitures qui sont fabriquées en France ou en Europe. Avant, au nom de la libre concurrence, on était amené à financer des voitures qui venaient de Chine. On s'est doté, au cours de ces derniers mois, grâce à cette prise de conscience, des moyens qui nous permettent d'agir en européen et de sortir d'une naïveté, il faut le mot, sur ces sujets. Ce qui est vrai pour l'industrie ou pour la santé doit l'être de manière absolue pour l'alimentation et l'agriculture, les enjeux sont encore plus importants parce qu'ils sont sanitaires, écologiques et économiques.
Je reviens un instant sur le plan éco-phyto et pour fermer ce chapitre-là. Les Français ont soutenu très très largement les agriculteurs et soutiennent d'une manière générale les agriculteurs. Et en même temps, c'est un sondage Le Point Cluster 17 cette semaine, 78% des Français sont pour la réduction des pesticides et soutiennent le plan éco-phyto. Est-ce que vous n'êtes pas entre deux injonctions contradictoires ?
Le soutien au mouvement des agriculteurs, ça n'était pas un soutien aux 123 mesures qu'ils présentaient. Donc je ne suis pas du tout surpris de ce résultat. Mais encore une fois, le sujet, ce n'est pas, de mon point de vue, ce n'est pas la pause. 78% des Français ne sont pas opposés à ce qu'on prenne le temps de discuter avec les agriculteurs. Ils seraient opposés à ce qu'à la fin, les décisions qu'on prenne aboutissent à ce qu'il y ait davantage de pesticides. C'est ni l'ambition du gouvernement, ni le souhait profond des organisations syndicales agricoles qui ont parfaitement conscience de ça et qui se retrouvent, elles aussi, en première ligne face à ces épandages. Mais on doit sortir d'une hypocrisie, agir en européen, rappeler les lignes rouges sur la santé et la biodiversité et mettre en face les moyens pour qu'il n'y ait pas d'interdiction sans solution.
Donc aujourd'hui, vous nous dites qu'il n'y aura pas plus de pesticides, il n'y aura pas plus de pesticides dangereux, notamment à l'issue de cette pause.
Aujourd'hui, je vous dis, au cours de ces 5 dernières années, nous avons quasiment éradiqué les pesticides les plus dangereux dans ce pays. Et le « nous », ce n'est pas le gouvernement, c'est le gouvernement et les agriculteurs auxquels je rends hommage. Deux, mais la baisse des pesticides pour l'avenir est une trajectoire sur laquelle nous sommes engagés et sur laquelle nous ne reviendrons pas. Il faut des moyens, de la cohérence et agir en européen.
Bon, maintenant une question, parce que c'était l'un des sujets aussi soulevés par cette crise agricole, sur l'eau, Claire Conroy-Witt.
Oui, et ça figurait, monsieur le ministre, parmi les annonces de Gabriel Attal, des mesures de simplification pour les agriculteurs, et notamment s'agissant de l'installation des bassines de rétention d'eau. Est-ce que vous êtes favorable aux bassines ? Est-ce que c'est une solution durable face aux épisodes de sécheresse ?
La sécheresse de 2022, elle a marqué les esprits. Et elle est révélatrice de ce qui nous attend. Tous les scientifiques nous disent, avec l'augmentation moyenne des températures, on aura de moins en moins d'eau l'été. Pourquoi ? Parce que la nature en absorbera davantage et parce que le dérèglement climatique amènera à ce qu'on ait plus d'eau l'hiver et moins l'été. Donc l'idée de se dire « je stocke l'excédent en hiver de manière à pouvoir l'utiliser pendant l'été » est une idée de bon sens, avec deux bémols. Le premier, c'est que ça ne peut pas être la seule solution. On ne pourra pas faire l'économie, compte tenu de ce qui est devant nous, de se poser aussi la question de la nature des cultures. Est-ce qu'on peut continuer dans ce pays, avec des sols qui seront plus secs, à avoir le même type de culture ? Et deux, avant même de parler de retenue ou de bassine, quand vous n'avez aujourd'hui que 9% des terres françaises qui sont équipées d'irrigation goutte à goutte, vous vous rendez compte à quel point on a des solutions de bon sens que d'autres ont déjà mis en œuvre et sur lesquelles nous devons aller. La bassine ou la retenue, ça n'est pas la solution miracle. Il n'y a pas de meilleure bassine que la nappe phréatique. Il n'y a pas de meilleur endroit pour stocker l'eau que de le faire de cette façon. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle il faut lutter contre la bétonisation, l'étalement urbain. Mais en parallèle, on ne peut pas s'interdire de se dire que c'est la bonne solution. Il y a des exemples réussis. Tout le monde a en tête des projets qui sont énormes en taille. Mais on ne voit pas tous les succès dans beaucoup d'endroits de retenue qui ont été faites à l'échelle de quelques exploitations. Et tout près de chez moi, dans l'Ouest, en Vendée, vous avez eu des dispositifs de retenue qui ont été mis en place et qui sont salués par des associations environnementales qui constatent que du coup, il y a moins de prélèvements l'été dans les rivières et donc il y a davantage de vie pour les poissons et de continuité écologique.
Donc, pour vous, ce n'est pas cette simplification de l'installation des bassines, ce n'est pas synonyme d'une forme de recul de l'écologie ?
Non, je crois là-dessus qu'il faut regarder territoire par territoire et que ça s'inscrit dans quelque chose de plus vaste. Quel type de culture ? Quel type d'accompagnement ? Comment est-ce qu'on met en place des fonds hydrauliques pour aller plus vite ? Il n'y a pas d'agriculture sans eau. Et quand j'entends parfois le discours de certains extrémistes qui disent que les agriculteurs veulent s'accaparer l'eau, non, ils veulent faire en sorte de pouvoir continuer à nous nourrir.
On sent bien quand même prendre cette histoire de guerre de l'eau. Chacun veut pouvoir avoir accès à l'eau. Comment vous allez faire ? Là aussi, il faut réguler, il faut des normes ? Ou il faut passer par une autre méthode ?
À chaque fois qu'on est capable d'être dans le dialogue plutôt que dans la norme, on fait progresser toutes les causes. On a des parlements locaux de l'eau. L'eau, elle n'est pas gérée, comme d'autres sujets, depuis Paris, d'une manière totalement uniforme, parce que tout le monde n'a pas les mêmes bassins versants, tout le monde n'a pas les mêmes niveaux de pluviométrie, et donc vous avez des bassins, 6 grands bassins, Et à l'échelle de ces bassins, vous avez les industriels, vous avez les électriciens, vous avez les associations de pêcheurs, vous avez les agriculteurs, vous avez les élus locaux. Et on discute de tous les sujets, pas seulement des sujets de quantité sur lesquels on se concentre, mais aussi des enjeux de qualité. Et on revient presque au sujet précédent. Et il faut qu'on soit capable à la fois d'améliorer cette qualité, et donc des règles dures à proximité des captages sur la qualité de l'eau, dans le même temps de se poser la question de la quantité toute l'année et pour tous les usages, et de le faire en assumant qu'on puisse avoir des réponses qui, en fonction des territoires, ne seront pas partout les mêmes. Mais juste une chose, on ouvre à peine les yeux sur ce sujet. Ce que je veux dire, c'est que jusqu'à il y a 2-3 ans, la question de l'eau en France, elle n'existait quasiment pas. Là où, en Italie, en Espagne, eux ont déjà commencé à faire des choses qui n'ont pas marché ou qui sont dangereuses. Quand vous vous dites, puisque j'ai pas assez d'eau, je vais transformer l'eau de mer en eau douce pour pouvoir continuer à cultiver de la fraise de manière intensive, où on va puiser dans les nappes phréatiques et aller chercher dans des réserves qui sont parfois millénaires. On voit, en particulier dans ce qu'ont fait les Espagnols, une partie de ce que nous ne devons pas faire. Mais on a aussi des exemples, et des bons exemples, à retirer d'une partie de ce que nos voisins ont fait. Et je vais juste vous donner un chiffre. Parce que parfois, on fait comme si les agriculteurs étaient conscients de rien de tout ça. Il se trouve que l'année dernière, de façon objective, ça a été l'année où on a le moins en France cultivé de maïs et l'année où on a le plus cultivé de tournesol. En clair, il y a déjà plein d'agriculteurs sans contraintes, sans normes, qui se sont rendus compte que s'ils ne changeaient pas leur mode de production, ils auraient un problème et qui ont eux-mêmes modifié leur culture.
Donc ça change. Un changement qui a fait aussi beaucoup parler cette semaine, c'est l'Office français de la biodiversité. La police, c'est la police de l'environnement qui, entre autres, vérifie l'application des règles sur l'eau et sur les produits phytosanitaires. Les agents seront désormais sous la tutelle des préfets. Est-ce que le gouvernement a fait finalement de cet office le bouc émissaire de la crise agricole ?
Je ne le crois pas. On ne fait pas disparaître cet office. On ne lui demande pas d'arrêter de remplir ses missions. Cet office, il est récent. Il a 4 ans. Il est composé de 3200 femmes et hommes auxquels je rends hommage et il fait plein de missions. Il fait la mission, par exemple, de vérifier, y compris que pendant un arrêté de sécheresse, on ne continue pas à arroser un terrain de foot ou qu'on n'a pas un laveur de voiture au moment d'une interdiction qui continuerait son activité, etc. Et beaucoup d'autres actions...
Mais il était au centre des critiques des agriculteurs.
Oui, il a été au centre des critiques et ces critiques... on ne peut pas ne pas les entendre.
Qu'est-ce que ça va changer de le mettre sous la...
Juste un mot, parce que c'est un sujet qui a occupé l'actualité et je veux, y compris par respect pour l'ensemble de ces agents, insister sur le sujet. Ils ont, dans une année normale, ils font entre 3000 et 4000 contrôles d'exploitation agricole sur 400 000. Ça relativise le fait qu'ils ne sont pas tous les jours en train d'aller pointer, d'aller vérifier. Et dans la majorité des cas, ça se passe bien. Mais on a des témoignages, pas seulement pendant cette crise agricole, qui par le passé reviennent en disant qu'il y a parfois des comportements, une façon, des postures qui entraînent de la tension. Et ça va avec la multiplication des normes auxquelles les agriculteurs sont eux-mêmes confrontés. Donc qu'est-ce qu'on a dit ? On avait eu des difficultés exactement comparables il y a 6 ou 7 ans avec les gendarmes. Et ça avait abouti en 2019 à la signature d'une convention entre les agriculteurs et la gendarmerie pour dire, on va calmer le jeu, on va discuter ensemble des modes opératoires, de ce qu'il faut parfois expliquer en amont, de la manière dont les choses se passent. Et depuis 2019, c'est un sujet qui est nettement moins prégnant. C'est la même stratégie qui a été retenue, sur le même modèle, de se dire, on va effectivement faire en sorte d'aller vers une convention, on va discuter de ce qui réellement pose des difficultés, mais tout est lié. La simplification des normes, elle va aussi moins exposer ses agents à parfois demander à des agriculteurs d'appliquer des règles qui sont ou absurdes ou tellement tatillonnes qu'à la fin, ça participe à la tension. La simplification, elle sera bonne pour les agriculteurs, elle sera bonne aussi pour les agents de l'Office français de la biodiversité. Enfin, la coordination par le préfet, elle répond à une logique simple. C'est d'éviter qu'entre la gendarmerie, les préfets, l'OFB, les services vétérinaires, vous puissiez vous retrouver à la fin avec plusieurs contrôles, plusieurs jours d'arrivée de la part de plusieurs services, alors que tous émanent de l'État. On a besoin de cette coordination administrative.
Alors, parmi les mesures immédiates annoncées cette semaine, et pour arrêter de les passer en revue, il y a par le Premier ministre. Il y a aussi l'annulation de la hausse de la fiscalité sur le gasoil non routier. Et les agriculteurs, bien évidemment, s'en sont réjouis. Mais d'autres secteurs, maintenant, qui utilisent du gasoil, demandent les mêmes mesures. Par exemple, le BTP. Est-ce que vous n'avez pas ouvert une forme de boîte de Pandore? Et est-ce que ce n'est pas le retour d'un quoi qu'il en coûte énergétique?
Je ne le crois pas. Je comprends évidemment la question. Et en plus, elle peut presque avoir des airs de déjà-vu par rapport à la taxe carbone. Mais il y a deux nuances absolument essentielles. La première, c'est que si on regarde le sujet sur le plan des finances publiques, il est neutre. Parce que la particularité, c'est que cette hausse, elle alimentait un fonds.
Sur le gasoil, oui. Sur les mesures globales pour les agriculteurs, non.
Voilà.
C'est 400 millions.
Ce que je veux dire, c'est que le GNR ne passe pas sur toutes les mesures agricoles, mais sur le GNR, les 80 millions d'euros de hausse du prix du gasoil alimenter un fonds de 80 millions d'euros qui permettait d'accompagner les agriculteurs. Pourquoi je ne le crois pas? Parce que aujourd'hui, le tracteur électrique n'existe pas. Et donc dire aux gens, il faut arrêter d'avoir un tracteur thermique, si en face vous n'avez pas de solution, ça peut rendre fou.
Mais c'est valable pour d'autres professions.
C'est valable pour d'autres professions, sauf que dans la plupart des autres professions, l'innovation est davantage en marche. C'est vrai pour les voitures, où aujourd'hui on n'a plus le débat qu'on avait il y a quelques années, on a encore des niveaux de coûts et de sorties, mais plus les constructeurs vont s'y mettre, plus on aura des prix qui seront abordables. Et aujourd'hui, en ce qui concerne les véhicules lourds, les camions, les bus, vous commencez à avoir des solutions alternatives qui sont des solutions crédibles.
Vous allez expliquer au secteur du BTP qui va devoir, lui, supporter cette hausse de fiscalité sur le GNR?
Vous savez, le secteur du BTP, il a comme donneur d'ordre l'État et les collectivités locales. Il n'est pas exactement dans la même situation pour la partie travaux publics que celle dont on parle. Ensuite, vous avez la partie bâtiment, qui elle est confrontée aujourd'hui à un sujet aussi, à une crise qui est complexe, mais qui n'est pas impactée à la même hauteur par l'impact du GNR que ne l'étaient les agriculteurs ou que peuvent l'être des travaux publics. Il faut là-dessus assumer d'avoir une approche qui soit différenciée. Ma philosophie, en fait, elle est simple. En matière d'écologie, il faut beaucoup d'ambition et de détermination pour tenir des objectifs qui ne sont pas négociables, parce qu'on ne peut pas négocier avec la nature ou la planète, mais il faut beaucoup de souplesse et beaucoup de pragmatisme sur les mesures que vous mettez. Et il faut parfois l'humilité de se dire c'était pas le bon rythme, le bon tempo ou la bonne mesure, et donc pour atteindre mon objectif, il faut que je trouve un autre chemin pour le faire.
Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique, est l'invité de ce grand jury. Juste après la pause, on va continuer bien évidemment de parler de toutes ces mesures. Et puis on verra aussi sur le plan politique comment le Rassemblement national revendique une nouvelle victoire idéologique, cette fois-ci sur l'écologie. A tout de suite.
Suite du grand jury, présenté par Olivier Bost.
Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique, est notre invité ce dimanche. Alors après la compliquée, on va dire ça comme ça, loi sur l'immigration, sur l'écologie et avec les agriculteurs, le Rassemblement national, là aussi, revendique une victoire idéologique. Claire Conruit.
Oui, monsieur le ministre, le RN ne veut pas d'écologie, ne veut pas du Mercosur et des accords de libre-échange. Le RN fait des reproches à l'Union européenne que vous faites également aujourd'hui, le Green Deal, la question déjà chère. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment, à force, de donner la victoire après victoire, au Rassemblement national?
Vraiment pas, madame Conruit. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que quand on entend le RN, on a finalement le sentiment que ce qui emmerderait avant tout les Français, et je reprends une partie des mots qui sont employés, c'est l'écologie. Je peux vous assurer que quand vous êtes dans le Pas-de-Calais avec les inondés, quand vous êtes dans la vallée de la Vésubie, quand vous voyez ceux qui ont été victimes du cyclone Belal, quand vous discutez avec des agriculteurs des Pyrénées-Orientales qui n'ont pas vu d'eau depuis un an et demi, ce qui les emmerde, ce n'est pas l'agriculture. Ce sont les conséquences déjà bien réelles du dérèglement climatique. Le RN, il surfe sur toutes les peurs et il se nourrit de toutes les colères. Alors, oui, le contexte dans lequel nous sommes, entre le retour de la guerre en Ukraine, ses conséquences sur le plan de l'inflation, les attaques terroristes du Proche-Orient, vous avez toutes les sources de colère qui peuvent conduire à le nourrir. Mais il ne propose pas de solution. Parce que quand ces colères, elles décroissent, lui-même reflue.
Donc, mais c'est pas un piège quand même quand le RN dit et se prononce contre une écologie punitive. C'est un mot que vous pouvez reprendre aussi, écologie punitive?
Mais c'est un mot que j'ai déjà utilisé. c'est peut-être pas celui que vous avez le plus entendu, mais si on pense qu'on fera l'écologie contre les gens, nous n'y arriverons pas. J'ai été amené, par exemple, à expliquer que sur les zones à faible émission, là où il y avait le spectre d'en installer dans 50 villes, il fallait réserver ces ZFE aux seules villes dans lesquelles nous dépassons les seuils de pollution atmosphérique. Il ne faut pas qu'on oublie l'objectif.
Il fait combien de villes ?
À la minute où nous parlons, c'est 5 villes qui sont concernées.
Donc les plus grandes ?
Uniquement les plus grandes, avec des actualisations en fonction de campagnes annuelles qui nous permettent de regarder ce qu'est la qualité de l'air.
On va ouvrir une toute petite parenthèse sur ces zones à faible émission donc qui empêchent les voitures les plus polluantes de rentrer dans les centres-villes. Marseille, ce matin, la présidente de la communauté urbaine Marseille a annoncé, Martine Vassal, qu'elle repoussait l'échéance pour interdire les véhicules critères 3 à partir du 1er janvier 2025. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Je pense qu'elle utilise les facultés que la loi lui permet. Pour être très clair, on a là aussi beaucoup caricaturé les choses. Je vais revenir à un principe que j'ai évoqué juste avant la pause. Nous devons être inflexibles sur l'ambition, souples sur les moyens de l'atteindre. Quelle est l'ambition ? L'ambition, ce n'est pas d'interdire des véhicules. L'ambition, c'est d'améliorer la qualité de l'air. Si la qualité de l'air est améliorée, je n'ai pas de raison d'aller prendre des mesures d'interdiction qui n'auraient qu'une portée électorale ou punitive. Et donc, la loi dit, les collectivités locales ont des marges, et elles appliquent et utilisent ces marges pour pouvoir atteindre
donc
les objectifs.
C'est une décision que vous trouvez qui ne vous gêne pas.
Encore une fois, à mon arrivée au ministère, il y avait une cinquantaine de territoires qui étaient potentiellement concernés par ces ZFE. Le fait qu'on ait remis l'église au milieu du village, pour utiliser cette expression, en disant de façon très claire, là où il n'y a pas de dépassement, il n'y a pas d'obligation punitive, là où il y en a, vous avez l'obligation de trouver les voies et moyens pour l'atteindre. C'est dans ce cadre que Martine Vassal s'exprime. Et donc, je crois trop à la décentralisation, à la responsabilité des élus et à la capacité à prendre localement les bonnes décisions pour m'en plaindre.
Et juste pour terminer sur ce sujet de la voiture, interdire ou en tout cas faire payer beaucoup plus cher, trois fois plus, les SUV à Paris pour le parking. Les SUV, c'est les très très gros véhicules, enfin les plus gros véhicules en tout cas. Ça, vous trouvez que c'est une bonne initiative ou pas ? C'est Anne Hidalgo, la maire de Paris, qui organise aujourd'hui.
Anne Hidalgo fasse un référendum sur ce sujet, comme s'il y avait un doute sur le résultat. Bon, c'est évidemment pour ressouder sans doute sa majorité, faire en sorte de faire passer des messages de manière à oublier ses propres voyages au bout du monde. Parce que sur le fond, quand le gouvernement a augmenté de 70% la taxe sur le kérosène pour que les vols en avion coûtent plus cher, quand il a mis en place des malus poids pour les véhicules les plus lourds, il n'a pas fait un référendum. Il a assumé que ce qui était souhaitable devait faire l'objet de mesures.
C'est de l'écologie punitive, le fait de faire payer plus les véhicules plus lourds ?
Ça s'inscrit dans une forme d'écologie punitive. Pour autant, qu'on ne remplace pas des véhicules thermiques très lourds par des véhicules électriques très lourds, c'est un enjeu écologique. Mais il y a une nuance entre changer les règles pour les nouveaux et que la patrouille rattrape ceux qui ont pris des décisions
donc,
il y a plusieurs années sans connaître les règles du jeu.
Vous êtes en train de dire c'est qu'il y a un problème avec les SUV ? Qui sont des véhicules lourds par définition.
De façon très claire, nous devons sortir du pétrole et aller vers des formes de véhicules qui sont plus légères. Parce que 80% de l'empreinte d'un véhicule, c'est l'extraction des matières pour être capable de le faire. Mais à l'inverse, dans les solutions pragmatiques que nous poussons, on pousse le rétrofit. Vous prenez une voiture et vous changez son moteur. Dans certains cas, des voitures lourdes dont on change le moteur, elles auront un impact plus faible que des voitures neuves qu'on fabriquera à partir de rien. Donc il faut trouver
il faudra
un équilibre, mais nous devons aller vers des véhicules plus légers.
Il faudra réduire le nombre de SUV, ou les ventes de SUV.
Nous devons aller vers une réduction des voitures lourdes.
Alors, pour en revenir sur le Rassemblement National, puisqu'on avait réattaqué la seconde partie de ce grand jury par ce sujet-là, lors de son discours de politique générale, le Premier ministre Gabriel Attal a directement ciblé le RN, une charge politique dans sa feuille de route. Est-ce que c'est bien le lieu en ce moment ? Est-ce que c'est à cause des européennes qui arrivent au mois de juin ?
On ne peut pas être dans un cas de figure où toutes les oppositions tapent sur le gouvernement et le gouvernement ne se défend pas en ne disant jamais ce qu'il pense des oppositions. Mmh. Et le RN est passé maître dans l'art d'être le tireur embusqué. Il profite des outrances de la France insoumise au Parlement européen pour se donner une représentativité. Il profite des divisions des LR pour afficher une unité. Il profite des colères que j'évoquais plus tôt et il joue à pas vu, pas pris sur des sujets pour lesquels nous aurions beaucoup à dire. Leur ambiguïté plus que leur ambiguïté sur leur position pro-russe depuis longtemps. On ne peut pas dire que ce soit ça qui ait freiné les ambitions de Poutine d'envahir l'Ukraine. Les discours qu'ils tiennent et qui pointent les mesures qui sont prises comme si les difficultés n'existaient pas, comme sur l'écologie. En clair, finalement, pour eux, il n'y a pas réellement de dérèglement climatique. Et c'est la raison pour laquelle il n'y a pas besoin de prendre des mesures écologiques. Les agriculteurs, où ils vont voter les jachères avant de les dénoncer quand ils font un tour dans les fermes. Les positions anti-européennes qui laisseraient entendre qu'il faudrait aller vers une forme de Frexit au moment où, jour après jour, on voit que le Brexit n'est le miracle annoncé ni pour l'économie britannique, ni pour sa souveraineté.
Dans le camp présidentiel, vous n'avez toujours pas de tête de liste pour ces élections européennes. On voit sondage après sondage, le Rassemblement national avec Jordan Bardella en tête de liste devance de 10 points en moyenne les listes de la majorité présidentielle. Est-ce qu'il n'y a pas urgence à désigner cette tête de liste chez vous ?
Nous n'avons jamais été aussi près du jour où nous aurons une tête de liste pour les élections européennes. Madame Buisson.
Ah bah c'est sûr qu'on s'en rapproche, mais on n'est pas sûr de...
Du nom.
et quand ?
Chaque chose en son temps, nous nous en rapprochons.
Mais ça manque aujourd'hui ou pas ?
Pardon ?
Ça manque aujourd'hui un candidat pour la majorité présidentielle pour les européennes ?
Le moment va venir où ça manquera. Mais à la minute où on se parle, le fait qu'on ait eu un nouveau gouvernement, qu'il y ait eu cette feuille de route, fait que je pense que dans l'espace médiatique dans lequel nous sommes, y compris avec les crises qu'on a vécues, on ne peut pas dire qu'un candidat nous ait manqué au cours de ces dernières semaines.
Alors, vous êtes ministre de la Transition écologique et également ministre du Logement. Vous étiez présent à la présentation du rapport de la Fondation Abbé Pierre sur le mal-logement jeudi. La bombe sociale du logement a explosé, dit la Fondation, qui parle de déni de fraternité. Pourquoi le gouvernement, d'une manière générale, sur le logement, semble si peu réactif alors que les alarmes se sont allumées les unes après les autres depuis quelques mois, mais voire même ces deux dernières années ?
D'abord, si on est honnête, il n'y a pas une crise du logement en France, il y a une crise du logement partout. Pourquoi ? Parce qu'on a deux phénomènes qui l'expliquent, et c'est vrai en Chine, c'est vrai aux États-Unis, c'est vrai partout en Europe, avec des chiffres à peu près comparables. L'argent coûte plus cher, hausse des taux d'intérêt, multipliés par 3, par 4 dans les prêts qui sont proposés aux gens. Et le prix des matériaux de la construction, sous l'effet de l'inflation, a augmenté. Et donc, on a réduit le pouvoir d'achat.
Avant même ces deux phénomènes-là, on avait déjà un problème de construction.
Ah non, quand vous regardez les chiffres, quand vous regardez la réalité, vous avez globalement des années jusqu'en 2019 où les choses se passent pas mal. Vous avez le Covid qui casse toute une partie du dynamisme. Et vous avez ensuite, malheureusement, l'Ukraine qui a pris le relais avec des mises en chantier entre les deux qui étaient remontées. Et donc, quand vous regardez... L'année qui s'est écoulée, c'est 25% de recul des mises en chantier. Mais c'est vrai partout.
Donc il y a des phénomènes que le gouvernement ne maîtrise pas. Mais la réaction et la réponse du gouvernement à cette crise du logement, c'est laquelle ?
J'y arrive. Ce que je veux dire, c'est qu'en face de ça, qu'est-ce que vous faites ? On nous dit, vous avez arrêté un dispositif fiscal, le Pinel. Oui, le Pinel, il conduisait globalement à ne pas bien cibler les constructions de logements. Il ne faut pas construire pour construire. Il faut construire là où on a des besoins. Parce que dans notre pays, on a... 3,5 millions de logements vacants. Et dans le même temps, on a des millions de gens qui considèrent qu'ils sont mal logés et qui pourraient être mieux logés. Pour faire en sorte que ces deux objectifs convergent, je crois profondément au fait qu'il faut accentuer, augmenter le pouvoir qu'on donne aux élus locaux pour pouvoir territorialiser les politiques. Ensuite, il y a des dispositifs de soutien spécifiques pour le logement social qui ont permis de limiter la crise pour le logement social, puisque je vous dis, il y a moins 25% de mise en chantier pour les logements normaux, mais il n'y a que 9% de recul pour les logements très sociaux compte tenu...
Il n'y a jamais autant de gens qui font des demandes de logements sociaux. Hein.
C'est tout à fait exact. On ne conteste rien de tout ça. On dit juste que, là aussi, par rapport à des solutions qui seraient toutes simples, c'est un peu plus compliqué. Parce qu'il faut agir sur le fait d'avoir parfois certains maires qui ne veulent plus signer le permis de construire parce que les riverains n'ont pas forcément tous envie et d'avoir alors, des voisins, et parce qu'on a les scénarios économiques dont je parlais.
Sur la question du logement social, est-ce qu'intégrer les logements intermédiaires dans le calcul du nombre de HLM que doivent avoir chaque commune, est-ce que ça va favoriser le logement social ? A priori, non.
C'est un ensemble de mesures qu'on doit être capable de conduire. Le Premier ministre a dit, j'annonce quelques premières mesures dans le cadre de ma déclaration de politique générale. Il dit, il faut regarder le parcours résidentiel et donc il faut qu'on regarde les logements intermédiaires parce que ce sont des logements abordables comme un moyen de faire en sorte de répondre aux attentes des Français. Plus de la moitié des logements intermédiaires qui ont été attribués dans le courant de l'année 2023,
qui est insuffisant.
Plus de la moitié, ce sont des gens qui relèvent du logement social, d'ores et déjà. En parallèle, il faut redonner du pouvoir aux maires, notamment sur les attributions de logements sociaux, parce que ça fait partie des freins. Et puis, il faut repenser une partie du dispositif. Moi, j'ai une idée que je souhaite pousser, mettre en avant, c'est qu'on copie une partie de nos voisins. Ça s'appelle le crédit in fine. En gros, c'est cette idée de dire, on emprunte, on emprunte pour la valeur de sa maison, mais on ne rembourse pas tout. Il y a une part qu'on ne rembourse pas, 20, 30%, pour redonner du pouvoir d'achat immobilier aux gens. Cette part, elle sera remboursée au moment où vous revendez votre bien immobilier. Mais elle fera l'objet d'un loyer, entre guillemets, et uniquement d'intérêt sur cette partie-là. Et donc, elle vous permet d'accéder à un logement plus grand. C'est comme ça que les Suisses, par exemple, ont fait face à des difficultés comparables qu'ils avaient eues il y a quelques années. Notre sujet, ce n'est pas seulement comment on fait face à la crise maintenant.
Ce nouveau prêt,
c'est comment on pousse pour redonner du pouvoir d'achat aux Français, et en particulier aux Français modestes.
Comment ce nouveau
prêt? Le crédit in fine peut être un des moyens d'y parvenir. Il y en a d'autres. Il y a le crédit hypothécaire. Enfin, on a plein de sujets, et ce mois de février va être l'occasion avec les acteurs du logement, pour moi, de pouvoir les faire entrer.
Toujours à propos du logement, une question sur le diagnostic. Claire Convit.
Oui, vous avez annoncé
une simplification
ouais. Du diagnostic énergie qui empêchera de louer les appartements ou des maisons très mal isolées. Dans vos voeux, vous aviez dit, je cite, vouloir permettre aux propriétaires et aux locataires d'aborder la date du 1er janvier 2025 avec plus de confiance. Avec plus de confiance, ça veut dire quoi? Un report?
Une pause?
On a, pour être précis, 1,5 million de passoires énergétiques dans ce pays, dans lesquelles il y a des locataires qui sont loués. Il ne faut pas qu'on baisse notre ambition. Parce que parfois, j'entends des gens dire « Mais vous pensez aux propriétaires qui vont avoir du mal à faire les travaux. » Moi, j'aimerais aussi qu'on pense aux locataires qui ont du mal à payer les charges. Parce qu'une passoire énergétique, à la fin, c'est une facture en moyenne deux fois plus élevée que si vous ne vivez pas dans une passoire énergétique.
Donc, vous êtes en train de dire aux propriétaires « Jouez pas la montre, de toute façon, vous serez obligé à un moment ou à un autre de faire des travaux. »
Jouez pas la montre parce que je ne peux pas croire que vous n'ayez pas une fibre sociale. Jouez pas la montre parce qu'il y a un enjeu pour la planète. Et jouez pas la montre pour une autre raison. C'est qu'à la fin, il ne faudra pas s'étonner non plus que plus personne ne veuille aller dans une passoire énergétique.
Vous tiendrez le calendrier?
On va tenir le calendrier, mais avec deux bémols. Le premier, c'est qu'aujourd'hui, quand je regarde, je m'aperçois que pour les petites surfaces, j'ai un taux de passoire qui montre que le mode de calcul n'est pas le bon. Et donc, mi-février, le 15 février pour être précis, j'expliquerai comment nous allons modifier pour les plus petites surfaces les règles, ce qui contribuera à faire diminuer de manière très forte le nombre de passoires dans cette catégorie.
C'est-à-dire que tout le monde va refaire son diagnostic.
On va faire en sorte, non, le dispositif sera rétroactif et ne nécessitera pas de refaire son diagnostic. Le changement de mode de calcul, le changement de mode de calcul pour les moins de 40 mètres carrés sera automatique et vaudra y compris pour les DPE du passé, sans être obligé de refaire quoi que ce soit. Ça fait partie de la simplification que nous souhaitons. Deux, il faut qu'avec les artisans, avec les professionnels du bâtiment, on regarde aussi deux ou trois irritants qui méritent de s'inscrire dans le chantier de la simplification. Je ne vais pas être beaucoup plus précis ici parce que ça deviendrait très technique, mais il faut à la fois aider plus les propriétaires qui en ont le plus besoin, et donc que ceux qui sont en G bénéficient d'une sorte de coupe-fil au niveau des aides et d'un niveau de soutien qui leur permette de mesurer que c'est possible et que gagner ne serait-ce qu'une ou deux classes pour respecter la date du 1er janvier pose pas de problème. Et puis ensuite, quand vous êtes en copropriété, on sait que parfois les choses sont plus complexes parce qu'une partie de l'effort énergétique dépend du vote de la copropriété avec des règles compliquées. Pour cela aussi, je souhaite qu'on simplifie et qu'on clarifie les trois choses.
Vous êtes ministre de la transition écologique, vous êtes ministre du logement, on vient d'en parler, vous êtes ministre des transports, on en a parlé aussi, et vous avez gardé une partie de l'énergie. À ce propos, pourquoi il n'y a plus d'objectifs chiffrés sur les énergies renouvelables?
Ça va revenir.
Ah.
Ce que je veux dire de manière... Non. Pour être complet... Cet objectif d'énergie renouvelable, il est à intégrer dans un global. Il faut sortir des énergies fossiles. Pour le faire, on a deux piliers sur lesquels on s'appuie. La relance du nucléaire, qui a l'avantage d'être une énergie pilotable, et les énergies renouvelables, qui sont intermittentes, mais inépuisables.
Et jusque-là, on disait, on va faire telle part du nucléaire, telle part d'énergie renouvelable.
Elle va être précisée. Bruno Le Maire, qui maintenant en responsabilité la production d'énergie, et moi, la sobriété, l'efficacité énergétique... on va évidemment relancer entre guillemets les consultations, mais au moment où ce changement a eu lieu, avec une urgence qui est d'aller valider cette loi sur l'énergie, le fait de redonner du temps à un échange avec les différents partenaires a été annoncé.
Gabriel Attal a dit cette semaine, hein, j'assume être à la tête d'un gouvernement pro-énergie nucléaire, il ne faut pas s'inquiéter pour le renouvelable, c'est ce que vous nous dites aujourd'hui?
Bien sûr que non, on a besoin des deux. Et je vais vous dire, la relance du nucléaire, elle fait qu'au mieux, on aura de nouvelles centrales seulement... après 2030, et donc dans ce contexte, on doit évidemment accélérer sur les renouvelables. Et de ce point de vue, l'année qui s'est écoulée a été record sur le plan de l'installation d'énergie photovoltaïque. Cette année 2024, c'est la consultation sur les parcs éoliens offshore où notre pays a du retard et où il y a des gisements qui sont absolument considérables.
J'ai listé toutes les fonctions que vous occupez actuellement, puisque vous n'avez pas encore de ministre délégué ou de secrétaire d'État à vos côtés. On devrait connaître le gouvernement au complet, une trentaine de personnes maximum, demain, lundi ou peut-être mardi. Vous, il faut combien de postes pour vous, pour assurer tous les champs que vous avez ?
J'avais jusqu'à maintenant 5 ministres délégués ou secrétaires d'État. Le président de la République et le Premier ministre m'ont fait la confiance de me rajouter la mer, l'efficacité énergétique, la sûreté nucléaire. Puisque le gouvernement est resserré, il faudra qu'on fasse au maximum avec le nombre de ministres ou de secrétaires d'État que j'avais jusqu'à maintenant. Mais ensuite, c'est une question d'équilibre. Vous savez, le resserrement, il a un avantage. C'est qu'il permet de gagner en efficacité parce qu'il y a moins de concertation entre les uns et les autres pour avancer. Et je pense que, y compris dans la crise agricole qu'on a vécue, le fait de pouvoir être plus resserré, ça a été une façon d'être plus agile sur les réponses que nous devions apporter. Ça va avec l'objectif de simplification qui a été évoqué.
Et dans ces chiffres, est-ce que vous allez regarder le nombre de ministres qui sont Horizon ? Vous êtes le numéro 2 du parti Horizon, le parti d'Edouard Philippe. Il y avait deux sortants.
Tout compte dans un gouvernement. Les équilibres, géographiques, politiques, la répartition des postes.
Il y a beaucoup plus d'équilibres
pour l'instant. Et je fais une grande confiance. Et je fais une grande confiance au président de la République et au Premier ministre pour compléter le gouvernement en tenant compte de ses
besoins. L'équilibre, c'est deux en plus.
Vous me reposerez la question quand le remaniement sera terminé.
Est-ce qu'Emmanuel Macron doit continuer de débaucher, c'est le terme employé, à droite ?
Je pense que le président de la République ne doit pas s'interdire de rassembler des femmes et des hommes de talent au service du pays.
Alors, il y a quelqu'un pour qui c'est difficile ce début de gouvernement, Claire Convite.
Oui, la ministre de l'Éducation, Amélie Oudéa-Castéra, a assuré vendredi qu'elle ne songeait pas à démissionner. Estimez-vous cependant que cette ministre est le symbole d'une caste de privilégiés à abattre, comme elle l'a dit elle-même ?
Elle a elle-même reconnu qu'elle avait commis des maladresses. Et dans son expression et dans la façon de s'en défendre. Je pense qu'il y a un moment où on peut peut-être passer à autre chose.
Il y a eu une forme d'acharnement.
Encore aujourd'hui. La preuve, c'est que chaque jour, vous avez des gens qui prennent un malin plaisir à essayer d'en rajouter pour continuer à l'affaiblir. De manière générale, j'aime pas les chasses à l'homme, mais quand en plus ça se fait de cette manière-là, en utilisant tous les arguments possibles, en mélangeant vie privée, vie publique, responsabilité ministérielle précédente, rapport parlementaire. On est dans une entreprise trop organisée pour qu'elle ait pour moi la moindre compassion.
Je parle
de l'entreprise de déstabilisation. Au contraire.
Vous avez eu des débuts pas faciles non plus. Vous dites aujourd'hui à Amélie Oudéa-Castéra, il faut tenir.
J'ai pas de conseils à lui donner. Chacun d'entre nous est différent dans sa façon de réagir. Ce que je crois vraiment, c'est que à partir du moment où elle a très vite reconnu qu'elle avait commis une maladresse, ne pas en tenir compte et ne pas la juger à ses actes, de la même manière que sur le plan du ministère des Sports, personne n'a trouvé à redire sur ce qu'était sa conduite. Au contraire, elle a même suscité le soutien de beaucoup de patrons de fédérations s'étonnant de la violence avec laquelle elle était accueillie au sein de l'éducation nationale.
Justement, est-ce que ce portefeuille est trop large, l'éducation nationale, les sports, est-ce que c'est trop large ?
Je ne peux pas répondre à cette question compte tenu de la largeur de mon propre portefeuille. Je serais mal placé pour commenter la largeur des autres.
Est-ce que la nomination de Gabriel Attal comme Premier ministre est une chance ou un défi pour Édouard Philippe en vue de 2027, bien entendu ?
Tout ce qui permettra à notre pays de réussir, c'est bon pour les Français et donc ça convient à Édouard Philippe. J'ai entendu la petite musique laissant entendre que maintenant qu'on avait un Premier ministre de 34 ans, ce serait une forme de ringardisation pour d'autres candidats à l'élection présidentielle. Si on est honnête, en appliquant cette grille, ça nous ringardise tous. Enfin, au moins nous qui avons significativement plus de 34 ans, Monsieur Bost. Moi, je pense que c'est toujours une chance de pouvoir avoir des gens jeunes qui ont des responsabilités. Je préfère être dans un pays où on discute du fait de savoir si le Premier ministre est trop jeune ou pas, plutôt que d'être aux États-Unis et avoir à savoir lequel des deux candidats âgés de plus de 70 ans fêtera ses 80 ans à la Maison-Blanche au cours du prochain mandat. C'est à la fois un signe de vitalité de notre démocratie et c'est une formidable occasion aussi de lutter contre l'abstention en montrant que tout le monde a sa place à une condition, c'est de s'en saisir.
Donc il faut que Gabriel Attal réussisse pour qu'Édouard Philippe puisse être candidat en 2027, c'est indispensable.
Édouard Philippe n'a jamais considéré et n'a jamais pensé que l'échec du pays, que les difficultés des Français seraient une chance pour une élection présidentielle. C'est d'ailleurs ce qui le différencie le plus des candidats populistes de LFI et du RN, qui, eux, décrivent une France qui va mal en espérant que ça va s'aggraver pour pouvoir pleinement se nourrir de toutes ces haines, de toutes ces colères, et ensuite ne rien proposer d'autre que d'en faire le constat ou le catalogue effroyable.
Mais Édouard Philippe a choisi jusque-là de rester, on va dire, relativement discret. Est-ce que la nomination de Gabriel Attal doit le pousser à être plus présent, à venir au grand jury, par exemple?
Je lui transmettrai l'invitation, mais fondamentalement, j'aimerais qu'on ne se trompe pas. Ce qu'Édouard Philippe a dit, c'est qu'il souhaitait être loyal mais libre. Il a fait le choix, de façon extrêmement claire, de soutenir Emmanuel Macron pour un deuxième quinquennat, de faire en sorte que le parti qu'il a créé s'inscrive dans cette majorité présidentielle, que ce parti soit solide à l'Assemblée pour appuyer sur tous les textes importants qui sont arrivés, l'action du gouvernement. Le sujet reste le même. Comment on fait en sorte chaque jour d'être utile aux Français? Et en 2024, le sujet, c'est pas 2027, c'est 2024.
Mais est-ce que le sujet peut pas devenir non plus comment se distinguer du macronisme à un moment ou à un autre?
Mais vous pensez que c'est véritablement le truc le plus urgent que nous ayons collectivement aujourd'hui sur la table?
Sur
le plus
Philippe.
Urgent, c'est comment on fait en sorte d'être à la hauteur des ambitions écologiques qui ont été fixées pour le pays? Comment on va vers le plein emploi? Comment on restaure encore davantage la sécurité et l'autorité dans ce pays? Comment on fait en sorte de continuer à redonner confiance, y compris aux Français, dans les atouts et dans les qualités de notre pays? Et les élections européennes, elles doivent servir à faire passer le message que par rapport à tous ceux qui nous expliquent de façon fantasmée ce qu'il faudrait faire, on doit aller vers mieux d'Europe avec davantage de France dedans.
Merci beaucoup Christophe Béchu pour ce grand jury. Bon dimanche à tous, à la semaine prochaine.